Bonsoir et bienvenue dans cette première onde noire de mai. Bonsoir Corinne.
Bonsoir Jacques.
C'est toujours l'émission la plus rogue, enfin la mission polaire la plus rogue de la bande FM, bien évidemment.
Voilà, tu n'avais pas fini l'expression consacrée, ça n'allait pas du tout. Au sommaire de cette émission, en fait, c'est une émission un petit peu spéciale puisque entièrement composée d'interviews. Dans la première partie, nous allons recevoir dans une minute et demie, un des grands du roman noir français, Didier Denynx. Et puis la deuxième partie est un petit peu spéciale parce que nous sommes partis la semaine dernière avec notre micro et notre enregistreur pour le lancement d'une anthologie de nouvelles noires. Donc ça s'est passé à la librairie du MUCEM, le merveilleux musée qui s'est ouvert l'année dernière à côté entre le vieux port et les quais d'embarquement à Marseille. C'est une anthologie qui est proposée par Asphalt et nous avons successivement, puisque nous avions la chance d'être entourés de pratiquement tous les auteurs des nouvelles de ce recueil, nous avons eu la chance de pouvoir interviewer ainsi 7, 8, d'abord celui qui a recueilli ces nouvelles, Cédric Fabre, et puis il y a 7, 8 auteurs qui ont répondu à quelques questions autour de leurs nouvelles. Et ce qui est intéressant dans cette interview qui est assez longue, c'est de voir un petit peu toutes les visions de ces auteurs, toutes les façons de voir de ces écrivains qui ont vu Marseille minérale, Marseille organique, Marseille dans 12 quartiers de Marseille, Marseille dans les îles. Voilà, donc...
Mais Marseille noire.
Voilà. Nous avons la grande joie de recevoir Didier Denynx. Bonsoir Didier Denynx.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous rejoindre. Donc vous êtes là pour nous parler d'un... Alors je ne sais pas trop, est-ce qu'on peut dire roman illustré, roman graphique, le tableau papou de Port-Vila, comment vous le présentez?
C'est une rencontre entre un peintre qui s'appelle Joe Pinelli et puis un écrivain qui est moi en personne.
Didier Denynx.
Et donc... s'est croisé plusieurs fois sur les festivals et il m'a parlé d'un peintre expressionniste allemand, Heinz von Furlow, et on a décidé de partir à sa recherche comme ça et à faire sa biographie, et c'est accompagné de dessins faits par Joe Pinelli qui réinterprète une partie de l'œuvre de Heinz von Furlow. Dans ce livre, pour le définir, c'est un ovni.
Oui, moi c'est un objet littéraire non identifié.
C'est un objet littéraire non identifié. Oui.
Et je rajouterai TB parce que très beau. J'ai oublié de dire que c'était publié chez au Cherche Midi éditeur qui a fait un très beau travail de reliure, les couleurs du papier qui s'assortissent aux couleurs des dessins de Joe Pinelli, très inspiré donc par Heinz von Furlow. Et comme vous avez dit, c'est une rencontre avec Joe Pinelli, mais avec un auteur, Didier Denynx. Alors je voudrais simplement rappeler que votre premier roman, il date de 82. Depuis... Oui. D'innombrables romans, des romans pour la jeunesse, des bandes dessinées qui sont sorties à partir de vos histoires, des histoires pour les enfants aussi, par exemple avec Jacques Ferrandez, de très très beaux recueils. Et en gros, j'ai l'impression que tout le fil conducteur de votre œuvre, c'est nous dessiller les yeux, nous permettre un petit peu de nous arrêter sur quelques injustices de l'histoire, sur des choses qui sont peut-être un petit peu trop cachées par d'aucuns et que vous aimez à un petit peu nous secouer. Est-ce que je me trompe ?
Non, il y a un peu comme ça. Moi, je me suis aperçu qu'une partie de la littérature que j'aimais, c'est une littérature qui, à partir de la fiction, éclaire un petit peu la réalité. Donc, ça peut paraître paradoxal qu'on atteigne peut-être un peu plus la vérité par la fiction, mais c'est l'impression que j'ai. Moi, je découvre... des pays, je découvre des villes, je découvre des problématiques en lisant énormément d'auteurs comme ça. Et ce que je découvre dans les livres est souvent beaucoup plus précis et ça passe par l'émotion, ça passe par les individus comme ça, plus précis que même des documentaires ou des lectures d'essais ou de choses comme ça. Il y a une force de la fiction à dire la réalité, à la dévoiler qui est inépuisable. Donc et avec Pinelli, c'est un petit peu le travail qu'on a fait. On est en plein dans une sorte de commémoration, comme ça, de la guerre de 14-18. Moi, j'aime pas ce mot de.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Commémoration, ça vous va pas trop, d'ailleurs.
Non. Donc, et c'est plutôt dans cette catastrophe fondatrice qui est la guerre de 14-18, essayer de voir des choses qui sont cachées par le côté massif de l'événement et avec. En suivant Hans von Furlow, comme ça, on découvre toute une série de choses très, très surprenantes qui sont dans l'ombre de l'histoire. C'est un petit peu ça.
Et vous reprenez quelques-uns de vos thèmes favoris, me semble-t-il, c'est-à-dire la guerre 14-18, c'est-à-dire l'horreur totale de la façon dont on a traité les gens, et en particulier les Kanaks et autres personnes qui étaient natives des colonies dans les expositions coloniales au début du XXe siècle. Vous parlez de Manoukian. Voilà, on retrace un peu aussi votre itinéraire littéraire, finalement, avec Hans von Furlow.
Ben oui, parce que comme je me mets moi à la recherche de ce peintre tombé totalement dans l'oubli, d'un seul coup je fais un travail. Moi je possède pas la langue allemande, donc je fais un travail sur des endroits où j'ai croisé ce personnage, lui dans les années 20, moi beaucoup plus tard, et donc il y a toute une série de choses et je m'aperçois que dans tout ce que j'ai écrit et ce à quoi je m'intéresse depuis des dizaines d'années, il y a des choses qui entrent en résonance avec la vie de ce peintre. Par exemple, l'amour que j'ai de la région océanienne, le fait d'être allé en Nouvelle-Calédonie travailler sur les expositions coloniales, travailler sur les nouvelles hébrides et tout, mais c'est des pays qui ont été traversés par Jack London. Avec la croisière du Snark et ainsi de suite. Donc, on a plein de choses comme ça qui rentrent en résonance. Puis, on apprend que, Hans von Furlow était en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Qui sait aujourd'hui en France que la Papouasie-Nouvelle-Guinée était une colonie allemande? Il suffit d'aller sur une map monde et on voit que la mer qui baigne la Papouasie s'appelle la mer de Bismarck. Et donc là, il y a eu des épisodes de la guerre 14-18 entre les escadres françaises et allemandes en Océanie. Il y a eu la guerre de 14-18 s'est passée dans la baie de Papété à Tahiti. Tout ça, on l'a complètement oublié.
Donc il y a ça.
Comment ?
Non, excusez-moi, j'allais vous interrompre. Il y a aussi, par exemple, les rencontres qu'il fait, par exemple, avec ce médecin absolument horrible, qui, en gros, commence les théories de l'eugénisme, ce médecin qui est embarqué.
Les Kanaks exposés en 1931 comme des animaux et des cannibales pendant l'exposition coloniale de Paris, mais ça s'appuyait sur des sciences totalement folles, comme quoi la forme du crâne, la phrénologie ça s'appelait, il y avait des déformations du crâne qui faisaient que certaines peuplades étaient vouées à la prostitution, à l'inceste et ainsi de suite. Ce qui nous en reste, nous, comme ça, dans le langage courant, c'est la bosse des maths. Mais ça nous vient de là, cette bosse des maths, c'est que des gens seraient plus capables de saisir les mathématiques fondamentales parce que la forme de leur crâne leur permettrait un développement d'une partie du cerveau. Donc tout ça, Hans von Furlow va se retrouver sur un bateau scientifique, lui en tant que peintre, mais il va se retrouver confronté à quelqu'un qui va donner les fondements d'une théorie qui sera utilisée après, une théorie raciale qui sera utilisée par les nazis. Donc, mais tout ça, c'est en gestation au début du siècle. Oui.
Et en fait, ce peintre qui, en France, est honnêtement, franchement, totalement inconnu, Hans von Furlow, c'est vrai que très peu de gens en ont entendu parler. Vous avez quand même eu la chance, au cours de vos voyages, pour d'autres recherches d'ailleurs, de régulièrement tomber sur des gens qu'il connaissait. Et il a eu une vie incroyable, parce que donc il s'est baladé en Papouasie. Et puis, il a rencontré quand même Rilke. Il a été hébergé par ce grand poète.
Voilà, il est en Papouasie en 1912, en 1914 éclate la guerre, et la Papouasie, une partie de la Papouasie va être occupée par la Hollande, qui possède une partie de la Papouasie, et qui est un pays neutre, et une partie des Allemands vont être renvoyés en Europe, et Heinzen-sur-Lot va se retrouver sur le chemin des dames. Il va combattre, mais il va se retrouver en face de... ils ne sont pas connus, mais il se retrouve en face de Guillaume Apollinaire, hein, qui est sur le chemin des dames et qui va être blessé.
Et qui va être blessé à mort.
Tête, dans le bois au but. Et puis ensuite, Heinzen-sur-Lot, après la guerre, va se... Mais ça, il y a un symbole pour moi très fort. D'un côté, il y a un artilleur allemand qui est peintre expressionniste, et puis de l'autre côté, il y a un poète. La guerre de 14, c'est une guerre de la barbarie, c'est la guerre que font les poètes aux peintres et inversement, quoi. Donc il y a ça.
Il y a un très beau passage d'ailleurs d'un face-à-face entre le peintre et le poète.
Et après la guerre, Heinzen-sur-Lot va se retrouver dans la principale ville intellectuelle allemande. Tout le monde pense que c'est Berlin, non, c'était Munich.
Munich avec l'école du Bauhaus.
Naissance au nazisme, c'était la principale ville intellectuelle, anarchiste et tout. Et il y aura une révolution anarchiste à Munich en 1919 qui va être dirigée par quelqu'un qui est un dramaturge qui s'appelle Ernst Toller. Et les dirigeants de cette révolution anarchiste vont être poursuivis et il y en a certains qui vont être sauvés par Rainer Maria Rilke qui habite là, puis il habite chez... une sorte de princesse allemande, la très très haute noblesse allemande, les von Taxis. Et comment Rilke va être confronté comme ça au corps franc, à l'extrême droite, et il va risquer sa vie pour sauver des dirigeants anarchistes. Mais ça, tout ça est vrai. Ensuite, il va passer en Suisse suite à cet épisode. Et cette révolution anarchiste, elle était dirigée en second par quelqu'un qui s'appelle Frege. Ce nom ne dit plus rien à personne, mais si on dit Betraven, d'un seul coup, on est dans le roman policier, c'est-à-dire que ce dirigeant de la révolution anarchiste va fuir vers Mexico, et il va écrire un chef-d'œuvre qui s'appelle Le Trésor de la Sierra Madre, qui va être adapté au cinéma par John Huston avec Humphrey Bogart dans le rôle principal, mais c'était un libertaire en fuite et qui a failli être fusillé. Donc avec von Furlow, on croise tout ça, quoi, toute cette histoire un peu oubliée, quoi.
Tout à fait oubliée, mais que souvent vous nous rappelez dans vos romans. Et justement, j'ai l'impression que si vous êtes tant attaché à ses pas, c'est que finalement, il est un petit peu votre analogue. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il est un témoin de son temps et un témoin, non pas qui dénonce, mais qui transforme en art. Des choses, vous, c'est en mots et en romans, et Heinzen-sur-Lot, finalement, c'est avec ses dessins à l'encre de Chine, magnifiquement réillustrés par Joe Pinelli, d'ailleurs.
Oui, mais je pense que, moi, je le vois, j'avais jamais regardé les choses de cette manière, mais je le vois comme une sorte de cousin proche ou de grand-oncle de Joe Pinelli. Parce que Joe Pinelli, moi je...
En tout cas, il s'y attache beaucoup, ça se sent, parce qu'il a déjà travaillé sur ce peintre.
Oui, et puis là, il vient de faire une exposition, j'y étais la semaine dernière à Liège pour le vernissage de l'exposition, où il a travaillé sur sur les années 20. Et Joe Pinelli interroge cette période des années 20, des années 30, où la mécanique infernale se met en marche, comme ça. Il essaye de comprendre, est-ce qu'on peut arrêter la marche vers le précipice. Donc il se pose cette question parce qu'il vit quelque chose en Belgique, à Liège, d'assez analogue, quoi. Une montée des idées d'exclusion, et Joe Pinelli est marié avec Mangaza, qui vient du Congo.
Du Congo.
Et le racisme, pour lui, c'est quelque chose qui est quotidien, quoi. Les effets du racisme ordinaire, comme ça, il est très, très affecté par la manière dont ses enfants métis sont confrontés à un regard discriminant. Donc, il cherche des solutions dans cette étude de cette période. Joe Pinelli est complètement inspiré par ça. C'est quelque chose de très, très fort, hein, quand on...
Tout à fait. Je suis obligée de vous interrompre. On arrive à la fin de l'émission. Donc, je rappelle, Le Tableau Papou de Port-Vila, Didier Deneinx, qui met en scène, avec une très belle histoire, Heinz-Swann Furlow, et réillustré par Joe Pinelli, au Cherche Midi éditeur. Merci beaucoup Didier Deneinx, à bientôt. Au revoir.
Au revoir.